This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Bonjour ou bonsoir, c'est l'épisode 37 de Spiritualista et je suis super contente de vous retrouver. Vous allez découvrir quelqu'un qui m'inspire énormément depuis que je la connais. Elle voyage avec son hula hoop, elle est fan de Kanye West et de Greg des Marseillais, ouais.
Repeat after me, c'est Dieu qui donne mon bébé. Repeat after me, c'est Dieu qui donne mon bébé.
Avec mon invité, on a parlé d'Ayurveda, à quel point ça peut être un révélateur de conscience. On a parlé de conditionnement, on a parlé de Big Pharma. Bref, on a balayé énormément de sujets et j'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti.
Spiritualista.
C'est parti pour ce 37e épisode de Spiritualista et je suis ravie d'accueillir comme première invitée de cette année 2022 une personnalité extraordinaire, non seulement parce qu'elle porte le même prénom que moi, mais pour plein d'autres raisons. Elle est prof de yoga, elle est podcasteuse aussi. Elle a un podcast qui s'appelle The Inner Journey, Tige, qui lie spiritualité et activisme. J'adore son podcast. Elle est voyageuse, elle est thérapeute en Ayurveda. D'ailleurs, dans cet épisode, on va énormément parler d'Ayurveda, hein, de cette médecine, la première médecine du monde qui a plus de 5000 ans. Mon invité est aussi Ayurjyoti. Elle nous en parlera, c'est l'astrologie védique. Je suis plus que ravie de débuter l'année avec Amel comme invitée. Et oui, c'est un épisode particulier parce que vous avez deux Amel pour le prix d'une aujourd'hui. Amel, bienvenue dans Spiritualista.
Merci. Putain, mais quelle intro. Ah là là, je me rendais pas compte que je faisais autant de choses, hein.
Mais ouais, mais c'est magnifique, j'adore.
Bah, merci pour ton invitation et trop contente de parler avec toi, comme toujours, quoi.
Mais avec grand plaisir. Alors, on vous cache rien dans Spiritualista. Là, au moment où on fait l'enregistrement, nous sommes le 25 décembre. C'est un peu notre façon de fêter Noël ensemble. Et là, Amel, toi, t'as pas mal voyagé là depuis août ou septembre. Et là, t'es en Géorgie. Comment ça se passe pour toi?
Bah, la Géorgie, c'est trop bien. J'y suis depuis un mois. Du coup, ça va faire presque 4 mois que je voyage solo. Et je suis dans les montagnes du Nord, du coup, je skie. Franchement, pour moi, c'est la manière idéale de boucler cette année, quoi. D'être dans la nature et de se reconnecter à soi. Et...
Mais j'ai vu tes stories sur Instagram, c'est clair que t'es dans le décor idéal pour Noël, quoi. C'est ouais. Totalement beau. On reparlera des voyages tout à l'heure. Là, j'ai envie de commencer cet épisode de Spiritualista en te posant cette question. Comment a débuté pour toi ta quête spirituelle, Amel?
Ouais, franchement, c'est une question archi difficile parce que je peux pas te dire qu'il y a eu un moment difficile. Je sais que au début de ma vingtaine, genre, j'ai vécu une rupture amoureuse et genre, j'étais complètement paumée. Et ouais. C'est là où j'ai commencé à me renseigner sur la spiritualité parce que j'avais besoin de quelque chose qui me fasse croire en la vie en haut, quoi.
Ouais. Besoin de trouver une source de, ouais, de lumière et d'amour, quoi, quand on est plus profond. Mais c'est souvent comme ça, en fait, hein. Moi, dans mon cas personnel, ça a été à deux moments phares où je me sentais seule, triste, et je me disais, mais à quoi bon, en fait? Faut que je trouve une raison pour vivre, en fait, et poursuivre mon voyage ici. Et toi, est-ce que tu as déjà ressenti, tu vois, ce phénomène qu'on appelle l'éveil, ce moment où tu as l'impression de tirer le rideau et de voir un peu ce qui se passe en coulisses?
Je pense que ça a été pendant ces années de Covid.
Ah ouais.
Vrai et gros éveil que j'ai eu. Avant, j'étais spirituelle, mais ça s'incarnait pas spécialement dans ma vie. C'était un peu, je dirais, toxic positivity, quoi. Ouais. Avant.
Voilà,
les belles phrases comme ça. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Hein.
Oui.
Moi, je
ne
suis personne. Et du coup, ouais, pendant ces années coco, où là, je me suis dit, comme on est un peu dans une guerre spirituelle, ou en tout cas, il y a une guerre contre le vivant, et ben là, j'ai commencé à me dire, mais en fait, je dois absolument rayonner, pas rayonner ma lumière, je dois absolument me reconnecter à mon cœur parce que, et à ma foi, parce que c'est ça qui va me sauver de tout ce qui se passe. Ouais, donc, c'est bien cette année.
C'est hyper juste ce que tu dis, et ça me fait penser à une réflexion que j'avais. Tu sais, souvent on parle de la 3D, 4D, 5D, la troisième dimension, on dit que c'est celle de la densité, de la matérialité pure. Et je me faisais la réflexion, tu vois, parce que là, je suis en famille et j'entends les conversations, et forcément on voit que on n'a pas tous la même vision de la réalité, tu vois, que certains sont très dans la matérialité. Et je me disais que finalement, les gens les plus touchés par cette situation coco, quand on dit coco avec un mail, si vous n'avez pas suivi, c'est quand on parle de la situation sanitaire, du Covid, et les gens les plus touchés, finalement, les plus vulnérables, ceux qui ont le plus peur et qui ont besoin de protection et de guidance, sont ceux qui ont tout misé sur la matérialité, qui considèrent leur corps physique uniquement comme un corps, une boîte physique, et qui n'ont pas conscience de toute leur être-té avec leur corps énergétique. Et forcément, quand tu as cette vision limitée et qu'on te dit qu'il y a une pandémie mondiale, eh ben oui, tu te sens totalement attaqué, vulnérable, et que tu es prêt à tout pour protéger ta petite boîte. Et que finalement, de leur point de vue à eux, c'est terrible, c'est beaucoup de souffrance. Et peut-être que le rôle des autres personnes, tu vois, qui ont conscience des autres corps énergétiques et tout ça, c'est de tenter de les apaiser. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Amel?
Genre, si je peux lier ça à la spiritualité, je ne sais pas si ça va répondre à ta question, mais il y a des gens spirituels qui étaient complètement perturbés par cette pandémie, hein, mais genre dans la peur à fond, et pourtant des gens qu'on ne croirait pas spirituels, mais tellement ancrés dans leur cœur qu'en fait, ils n'avaient pas forcément peur de tout ce qui se passait.
Je vois, ouais.
Ta question, je pense pas que j'y ai répondu là.
Ouais, non, mais en fait, tu sais, c'est des fausses questions, en fait. C'est juste des réflexions personnelles, et t'es en mode, est-ce que peut-être, tu vois, genre, ça rentre en résonance avec un truc que t'avais peut-être vu ou perçu, mais tu sais, c'est très particulier. Souvent, on dit qu'on est sur Terre, tu vois, dans des écoles, et c'est juste qu'on n'est pas dans les mêmes classes. Et que tu ne peux pas demander à quelqu'un qui est en CM1 de faire des équations à trois inconnues. Et que c'est vrai que quand tu vois les choses comme ça, tu te dis, ouais, en fait, on a des perceptions selon notre niveau de conscience, quoi.
Ben, c'est la citation « People will meet you only where they are at ». Donc, ils vont te... En fait, soit tu descends, on va dire, entre guillemets, à leur niveau de conscience, soit c'est mort, quoi. Ils ne vont pas pouvoir remonter, ou si, en tout cas, ils le veulent, ils peuvent monter. Mais en tout cas, s'ils ne veulent pas et qu'ils restent dans la 3D, comme on dit, ben, ça va être compliqué, quoi.
C'est ça. Mais tu sais, la fréquence vibratoire de la peur, elle est tellement basse, tu vois, c'est au plus bas, que tu as l'impression que limite, c'est ça paralyse, enfin la personne est totalement engluée comme dans des sables mouvants. Et moi ce que j'ai pu capter, en fait, la seule façon de pouvoir leur transmettre des informations, c'est un peu de tu sais, souvent on dit que le mental, l'inconscient comprend que les métaphores. Donc parfois, tu es amené à leur parler comme à des petits-enfants, ouais, avec des métaphores, avec des images, avec des choses comme ça, parce que, mine de rien, si leur mental fait bloc, tu vois, si la peur bloque le mental, tu as l'impression que tu as une porte arrière par laquelle tu peux passer, tu vois, avec des images, quoi. Et là, j'arrive parfois à obtenir quelques petits résultats. Donc, c'est un petit tips, voilà, si vous voulez encore envoyer de l'amour et de la lumière à des personnes qui ont encore très peur de tout ce qui se passe, on peut tester les images, quoi.
Ouais, et ça, de toute façon, ça va toujours se confronter à si la personne est ouverte ou pas.
Totalement, ouais. Voilà. Ouais. Et j'ai une autre question, là, pour voir un petit peu, pour avoir ton profilage côté spirituel, éveil de conscience, c'est... qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ta vie, Amel, d'embrasser ta part de spiritualité ?
Bah déjà, j'en avais trop honte avant. J'avais dit dans le live, je crois. J'en avais trop honte. Ouais, j'avais très, très honte de ma spiritualité parce que bah, en France, c'est pas... Bah, quand tu dis des phrases un peu philosophiques, on te met directement dans la case des perchés. Et t'es pas vraiment acceptée quand t'es perché, tu vois. T'es pas la meuf cool, tu vois, du lycée. Tu sors pas avec le quarterback si t'es perché, tu vois. Donc, je l'ai caché pendant très longtemps.
Ouais.
Et du coup, avec le coco, là, avec cette phase, du coup, du fait que je sois coupée un peu physiquement... des personnes avec qui j'ai vécu, ça m'a permis en fait de me créer une autre identité et d'accepter encore plus. Et je pense le podcast aussi, le fait d'en parler, et ben ça a fait que je me suis créé une nouvelle identité et je me suis acceptée aussi. Et surtout, j'ai compris que la spiritualité, c'était pas du tout perché. On peut être agriculteur, servir la nature et être complètement spirituel parce que c'est ta mission, quoi.
Ça me fait, excuse-moi de te couper, ça me fait penser ce que tu viens de dire, là, l'exemple de prendre voilà, le paysan qui va planter des choses. C'était Guilhem Kézac, dans un des premiers épisodes que j'ai fait, qui en parlait, et il parlait de l'acte de prière. Il disait, mais prier, c'est pas forcément être une grenouille de bénitier, aller à l'église tous les quatre matins. Il prenait l'exemple justement du jardinier ou de l'agriculteur qui, quand il plante une graine, est dans un acte de prière, en fait, mais dans l'action. Et j'aime beaucoup ce que tu partages, parce qu'on a lancé nos deux podcasts à peu près au même moment. On a une vraie un développement spirituel qui se fait en parallèle et un peu en miroir, et j'aime beaucoup beaucoup ce que tu fais. J'écoutais tes podcasts en rapport avec l'Ayurveda pour préparer l'interview d'aujourd'hui, et au début d'un de tes podcasts tu disais j'enregistre cet épisode, j'en profite parce que je suis seule à la maison, parce que quand il y a mes parents à la maison, énergétiquement je sens qu'ils me limitent, ça t'entrave. Et comment t'arrives à gérer ça ?
Quand je sais qu'ils sont là et qu'ils vont écouter, j'ai trop honte de ce que je vais dire parce que j'ai peur de leur jugement. Tu vois, la famille, c'est toujours, toujours sensible, quoi. C'est les personnes de qui t'as pas envie d'être rejetée, tu vois. Voilà. Mais ils s'ouvrent de plus en plus. Chacun à des rapidités différentes, mais comme je l'assume de plus en plus et que je vocalise de plus en plus mes croyances, ils commencent à cerner que j'ai changé, quoi. Tout cas, je me suis révélée.
C'est super intéressant, et ça me fait penser à une conversation que j'ai eue avec ma grand-mère avant-hier, et j'en avais fait une vidéo sur Instagram où je disais que les réunions de famille, quand on retrouve sa famille, qu'on a évolué de notre côté, qu'on les retrouve, c'est justement une zone un peu test où on voit que finalement il y a un gap qui s'est créé en conscience. Et pas loupé, ma grand-mère m'a posé la question qui serre le cœur, c'est « alors toujours seule ?» Elle m'a posé, en fait. Et là, je regarde ma sœur et j'ai envie d'éclater de rire parce que c'était tellement sûr qu'elle allait la lâcher. Et moi, je pars du principe que tu vois, par exemple, voilà, ma grand-mère, elle est d'origine musulmane, donc les 5 prières par jour, elle les fait depuis 50 ans, tu vois. Donc je me dis quand même, elle est connectée en Wi-Fi, elle a la fibre avec Dieu, tu vois. Et parfois, tu sais, genre en rigolant, je lui ai dit, ah, tu sais, Mima, moi, je suis connectée, voilà, à la lumière. En fait, j'adore jouer la nonne et pousser le truc à fond aussi. Et je lui ai dit, moi, je suis mariée avec Dieu. Et vu que j'ai eu en plus plein de vie antérieure où j'avais fait vœux de chasteté, j'étais nonne, tu sais, quand je le dis, en fait, ça fait vibrer un truc de très vrai. Mon âme parle vrai quand je dis ça. Et je lui dis oui, parce que l'amour des hommes, l'amour des humains, voilà, il est imparfait, alors que l'amour de Dieu. Et tu sais que je dis ça à ma grand-mère, elle m'a laissé en lu. Genre, elle a tourné la tête et elle a parlé de carrément autre chose avec ma sœur. Genre, ça n'a pas résonné du tout.
Ah ouais. Ah ouais, elle a préféré ne pas entendre, peut-être. Ne pas avoir entendu.
Tu sais, parfois c'est ouf, mais tu vois que quand toi, tu es dans ton cœur et que tu envoies une déflagration, il n'y a pas d'ego hein, dans ce que je dis, je suis juste dans tu vois, une description en fait. Il y a parfois là, tu envoies trop en fait, tu envoies trop de love. Parce que moi, quand je parlais comme ça, je sentais que je canalisais un truc qui était pur et qui était, tu vois, quand je suis revenue d'Amazonie, les chamans, ils m'avaient dit, ils me parlaient de la luz divina, tu vois, et qui me disaient de rester connectée à ça. Et tu te rends compte qu'il y a des moments face à certaines personnes, quand tu te connectes à ça, c'est au-dessus de toi, tu vois.
Ouais.
En fait, t'envoies une décharge qui est, pour certains, qui les met mal à l'aise.
Ah ouais, je peux totalement comprendre. Moi, parfois, par exemple, je reçois des messages sur Instagram de remerciements et tout, et je ressens tellement d'amour dans ces messages que parfois, genre, it's overwhelming.
Ouais.
Tu vois, genre, tu sais plus quoi dire. Ouais.
Mais oui, c'est ouais, on est branché sur un, tu vois, sur un voltage. Nous, notre corps d'humain, c'est un petit voltage. Et parfois, quand tu te connectes à quelque chose de supérieur à toi,
Ouais.
toi-même, tu sens que les plombs y tiennent, mais qu'en face de toi, peut-être que les gens, ils sont pas du tout habitués à ressentir ça, tu vois.
Ouais, c'est
Et
clair.
c'est fou. Spiritualista. Et donc toi, Amel, pour moi, toi, t'es ma l'Ayurveda teacher, tu vois. T'es, je sais quand j'ai des questions à poser, même parfois, tu m'apportes ton éclairage ayurvédique sur des choses très, très ancrées dans nos vies modernes et j'adore. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, pour toi, l'Ayurveda a pu être un révélateur de conscience?
Déjà, l'Ayurveda, c'est spirituel, hein. C'est pas juste les massages et la nourriture. C'est
Ouais.
genre une partie. L'Ayurveda vient des Védas, donc c'est toute une spiritualité. Et dans l'Ayurveda, il y a quatre points de spiritualité, dont le dharma, qui est la mission de vie, en fait, ce qu'on est venu faire ici. Et le fait de me connecter à ça. Et d'accepter en fait cette mission. En fait, cette mission, je la connaissais déjà. Je veux dire, quand j'ai découvert ma mission de vie, c'est pas comme si il me disait que j'allais travailler avec les chevaux alors que j'ai jamais vu, enfin, j'ai jamais monté un cheval de ma vie, quoi. Non, c'est en fait, il parle directement à ton cœur. Tu le savais déjà, sauf que tu avais un peu peur ou t'hésites ou t'as du doute, quoi. Et le fait de comprendre en fait l'Ayurveda, de comprendre comment son corps fonctionne physiquement et mentalement et émotionnellement, de comprendre sa mission de vie, le fait qu'en fait on a des ressources toujours, parce qu'il y a Artha avec le Dharma, donc on aura toujours les ressources pour mettre en place sa mission de vie, et ben, du coup ça développe ta foi. Tu es là en mode, mais pourquoi je me prends la tête? Genre, j'aurai toujours ce dont j'ai besoin pour faire ce que j'aime et ce que je désire au fond de mon cœur. Donc
Magnifique.
ça a élevé ma
Mais
conscience
oui.
et ça m'a apaisé.
Mais totalement. Et quand tu dis que finalement ta mission de vie, c'est comme si on la connaît, on la ressent, mais que ça nous semble un peu trop beau pour être vrai, est-ce que tu as la possibilité de partager avec nous concrètement ce que tu as découvert, quelle était ta mission de vie et quelles étaient les choses déjà qui te rapprochaient de ta mission de vie et quelles sont les
Ouais.
choses que tu as, comment dire, engrammées, affirmées en toi une fois que pour toi, ça y est, c'était ça et que tu y allais sans peur?
Ouais, alors c'est vrai que si j'avais consulté un astrologue védique il y a 10 ans, j'aurais dit, mais il est complètement à côté de la plaque, hein. Et là, c'est là que tu te rends compte que la vie, elle est bien faite et que vraiment, elle te prend par la main, pas à pas. Et genre, il y a des choses, t'es pas prête pour ça. Alors, moi, ma mission de vie, c'est communiquer et enseigner, transmettre sur le rapport à la santé et comment la société peut en fait impacter la santé des femmes, surtout.
Wow, c'est
Donc,
hyper précis.
ouais. Et on a les talents pour. Genre, ça
Ouais.
veut dire que moi, par exemple, j'ai quatre planètes dans ma maison de la communication. Genre, je suis faite un peu pour communiquer. Sinon, si j'avais pas d'énergie dans la communication et que mon dharma, c'est de communiquer, c'est chaud. Donc, faut pas non plus, je pense, pour les gens en général, forcer une porte si elle ne s'ouvre pas. C'est que on a d'autres talents pour aller vers d'autres choses plus facilement. Et ce qui s'est passé, moi, j'ai toujours été intéressée par la santé depuis que je suis petite, mais sauf que c'était plus en mode extérieur. Le sport, la bonne nourriture, les masques et les produits de beauté naturels, bio, tout ça, c'était mon truc. Ensuite, petit à petit, quand je me suis séparée et quand j'ai commencé à voyager au Sri Lanka, que j'ai fait du yoga, là, j'ai commencé à aller un peu plus profondément que le corps physique et à toucher à l'aspect mental et émotionnel. Parce que j'étais très anxieuse aussi.
D'accord.
C'est typique de notre société.
Ouais.
Et ensuite, je suis devenue prof de yoga, donc j'ai continué à me renseigner sur le corps énergétique, sur le corps mental, émotionnel. Et là, avec le coco, j'ai commencé à me renseigner sur Big Pharma.
Et là
en fait, c'est comme si mon troisième œil s'est ouvert d'un coup et il a vu, mais en fait, la société, elle nous met grave des taquets tous les jours. Surtout la lourdeur, dès qu'on sort et que les gens ils projettent quelque chose sur nous, genre un préjugé, du racisme, ou genre le boulot, enfin tout le travail, tout le système éducatif aussi. Voilà. Alors, l'éducation nationale et moi, on va plus être potes, ça c'est sûr. Franchement, j'ai eu des flashbacks pendant ces 2 années. Je me suis dit, waouh, on m'a fait ça quand j'étais petite. On m'a mise toute la journée dans une classe, dans une salle de classe, alors que moi, j'adore être dehors et j'adore jouer. Et tout ça, en fait, le jeu et l'extérieur n'étaient absolument pas inclus dans l'éducation nationale.
Et en plus, c'est d'une grande violence. Là, je suis revenue à Saint-Étienne, il fait moins 4 degrés, il fait super froid. J'ai vu que toi, en Géorgie, t'étais à moins 15, mais...
Ouais.
Mais je me suis souvenue des matins où tu te réveilles l'hiver, à 6h30, tu vas prendre ton bus, il fait nuit, il fait froid, il y a du verglas, tu vas à l'école, mais c'est des vies... Mais ça, c'est des vies de tôlard, ça, c'est des vies de... Tu travailles à la mine. C'est pas des vies d'enfant qui va à l'école.
Et aujourd'hui, ça me paraît inconcevable de retourner dans ça.
C'est hyper violent.
C'est horrible pour le corps physique.
Ouais.
Après, les gens avec leur mental, ils peuvent couper, mais le corps physique, il va retenir.
Totalement. Mais oui, mais c'est passionnant, en fait. Mais ça va avec le travail d'éveil et d'expansion de conscience, de questionner les choses, d'essayer de voir qu'est-ce qui se cache derrière. Tu sais, il y a l'expression en anglais, c'est « follow the money », « suis l'argent ». Et on se faisait la réflexion avec ma sœur là il y a quelques jours où on parlait, on adore ma sœur aussi critique vachement l'industrie pharmaceutique tout ça, et on se disait mais les médecins ils tapent des 5 ans 8 ans d'études, le docteur il fait quoi en fait, tu vas le voir, il te dit juste est-ce que c'est une grippe ou une angine, genre il y a deux maladies en fait. Genre, c'était grippe ou angine et c'était tout. Paracétamol et basta, tu vois.
Ouais.
Et justement, dans la vision de l'Ayurveda, je sais que l'Ayurveda, c'est une approche, une médecine holistique qui va prendre l'entièreté de l'être, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Quand toi, tu compares avec la médecine occidentale qui fragmente, qui découpe l'être, tu vois, où il y a le pneumologue, le rhumatologue, le gastro-entérologue, tu vois, genre, est-ce que, du coup, tu te dis, mais... Qu'est-ce qui tourne pas rond en fait?
Ah bah du coup ouais, je me suis pas mal posé la question. Moi je suis pas du tout contre la médecine allopathique. Je pense que c'est super bien les progrès de la science dans ça. Par contre, ce serait bien qu'ils s'allient avec l'Ayurveda. Ce serait chouette pour la santé des gens. Mais bon, comme les gouvernements ne veulent pas la santé des gens, donc ça ne va pas arriver de sitôt.
Parce qu'il faut rappeler qu'une personne en bonne santé ne génère pas de profit, de capital. Donc, pour le coup, ça ne sert à rien d'avoir des gens en bonne santé. C'est pour ça que ça n'intéresse pas Big Pharma.
Ouais. Et la santé, c'est en fait, si les gens étaient en bonne santé, ils se rendraient compte que le système éducatif et le système capitaliste vraiment ne promeut pas leur bonne santé. Et du coup, c'est tout le système qui s'effondrerait si les gens, en fait, se reconnectaient à leur dharma. Mais de toute façon, les gens, ils vont être forcés. En tout cas, moi, de ce que je vois, c'est qu'avec toutes ces nouvelles technologies qui sont en train d'arriver, il y aura de moins en moins de travail physique. Et du coup, les gens, ils vont devoir se reconnecter à leur cœur. Parce que les nouvelles âmes qui viennent, et de toute façon, dans 30 ans, le paysage du travail aura complètement changé. Ils seront obligés de se connecter à leur cœur pour faire quelque chose qu'ils aiment, en fait. Et parce
Totalement.
qu'on va être facilité avec les nouvelles technologies. Genre, ça se trouve, les éboueurs, il n'y en aura plus. Genre, il y
Oui.
aura des machines spéciales pour.
Toi, pour toucher du doigt l'enseignement et les connaissances de l'Ayurveda, ça t'a pris énormément de temps, hein. C'est de la collecte d'informations, c'est énorme. Je rappelle que c'est une des premières médecines qui a existé. Elle a plus de 4000 à 5000 ans. C'est dans les textes védiques, c'est très dense. Est-ce que tu penses, toi, que justement cet enseignement et cette connaissance de soi est accessible à tous?
Oui, c'est accessible à tous, mais après, est-ce que ça veut dire que les personnes veulent devenir thérapeutes? Si les personnes veulent juste connaître pour elles, elles peuvent aller consulter un thérapeute et il n'y a pas de souci. Par contre, si les personnes veulent vraiment se former à l'Ayurveda, faut absolument faire une vraie formation sur au moins 2 ans et lire pas mal dessus parce qu'en fait, c'est comme apprendre une nouvelle langue. C'est une manière de penser totalement différente. Tu penses avec les éléments.
Oui.
C'est pas comme la médecine allopathique. Là, tu penses en feu, eau, terre, air et terre. Voilà.
C'est magnifique. Mais du coup, ça renforce cette connexion qu'on a avec le tout, avec le cosmos, avec la terre, avec finalement, voilà, l'humain est réintégré dans un tout. C'est pas, il y a plus ce truc de hiérarchie où l'homme est au-dessus de, tu vois, du minéral, des animaux et tout ça. Et pour toi, de ton point de vue, ça a été quoi les grands highlights, les gros enseignements? Tu sais, ces moments où toi, tu as découvert cette discipline où tu t'es dit, waouh, ok, et que tu pourrais nous partager. Genre vraiment les grosses choses, je sais pas, peut-être les tu sais, parfois dans l'alimentation on va associer deux aliments genre qu'il faut absolument pas associer ou des choses à faire le matin en se réveillant qu'on fait pas, tu vois.
Bah alors moi, pour le coup, ça n'a pas du tout été physique, hein, parce que le truc qui m'a fait waouh, c'est ça l'Ayurveda, c'était en 2018, quand je faisais ma formation pour devenir prof de yoga, on a eu une petite intro à l'Ayurveda et je me rappelle, je voulais pas y aller, j'y allais à reculons parce que je me suis dit, elle va me parler de bouffe. Moi, je cuisine pas, donc genre je m'en foutais un peu et bref, je suis pas très ouverte, mais bon, j'y suis allée quand même. Et en fait, elle parlait des doshas et des constitutions ayurvédiques. Et du coup, en fait, ta constitution ayurvédique te donne à peu près comment t'es mentalement et émotionnellement, et aussi ton chemin d'âme.
Est-ce que tu peux nous parler des trois doshas, s'il te plaît, Amel?
Alors du coup, il y a 3 doshas principaux. Enfin, il n'y en a que 3 de toute façon. Il y a Vata qui est air et éther, Pitta qui est feu et eau, et Kapha qui est eau et terre. Donc, une personne Vata, c'est une personne qui va être très enthousiaste, qui va être beaucoup dans le mouvement, très créative, mais qui peut être très anxieuse également. Donc, moi, je fais partie de cette catégorie-là. Après, il y a Pitta. Pitta, c'est très feu, c'est des personnes qui recherchent la justice, qui sont ambitieux, des leaders et qui peuvent aussi s'énerver très rapidement et être frustrés très rapidement. Donc moi, dans ma constitution, j'ai un mélange de Vata et Pitta. Mais Vata en premier. Ensuite, il y a Kapha, c'est mes nounours. C'est ceux qui sont faits d'eau et de terre. Donc on a les 3 doshas en nous, hein, bien évidemment, mais dans différentes proportions. Et donc Kapha, c'est quelqu'un qui est très ancré, très stable, très en mode cocooning, qui veut rester chez soi, prendre soin de sa maison, qui est calme, qui ne s'énerve que très rarement, mais qui peut être très léthargique également et paresseux. Tellement pas envie de sortir qu'il fait rien. Les choses sont beaucoup plus lentes avec un kappa. Il faut lui dire 50 millions de fois pour qu'il ou elle fasse quelque chose. Donc, ouais, c'est quand j'ai découvert les constitutions ayurvédiques et j'ai pu en fait comprendre mon anxiété, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est un peu normal. Mais du coup, j'ai des manières de prendre soin de cette anxiété. Et c'est fou parce qu'aujourd'hui, Big Pharma fait en sorte d'utiliser l'anxiété comme une nouvelle maladie. Et
Bien
du coup, ils
sûr.
vont vendre des nouveaux médicaments. Sauf qu'en fait, l'anxiété, enfin, il faut savoir que l'Ayurveda a une liste très précise des maladies et des présymptômes. Et l'anxiété n'est pas une maladie. C'est
Merci.
un symptôme. Et ça se règle. C'est la
Mais oui.
société qui rend malade. C'est pas nous.
À la demande de mon invité dans cet épisode, Amel, je vais rajouter ce qu'elle m'a demandé de rajouter pour être au plus juste. Elle fait la différence entre l'état d'anxiété et les troubles de l'anxiété. Pour elle, les troubles de l'anxiété peuvent être soignés de manière naturelle.
Je valide fort et ça me fait aussi penser à ce qu'on appelle ce qu'on a labellisé comme la dépression. Mais en fait, la
Ouais.
dépression, c'est quelque chose de très sain. C'est quand tu es sous pression que tu as besoin de dépressuriser comme une cocotte minute. On enlève le petit bouchon pour que... Tu vois? Et en
Ouais.
fait, on a fait d'un phénomène qui est sain, qui est, tu vois, un moment de compensation énergétique, une pathologie.
Ouais.
Et ça aussi, c'est problématique en fait. On devrait bénir et écouter et accompagner, tu vois, la dépression comme, ok, là j'étais sous pression. Qu'est-ce qui m'a mis sous pression? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que j'ai pas écouté et respecté en moi? Tu vois? Et t'as une nouvelle lecture du jeu, quoi. Donc oui.
Ouais.
Et petite anecdote, j'avais adoré parce que j'avais fait un bilan ayurvédique grâce à toi. Et quand j'avais eu le résultat, tu m'avais dit attends, 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 ne me donne pas le résultat, je vais essayer de trouver. Et donc toi, quand tu observes les gens, Amel, parce que je sais qu'il y a la corpulence aussi qui joue vachement sur les doshas.
Ouais.
Est-ce que tu arrives par rapport à la façon de se mouvoir, la corpulence, comment les gens parlent et bougent, à capter un peu s'ils sont vata, pitta ou kapha?
Ouais, en fait, je pense tu peux voir le dosha principal, en tout cas la grosse tendance. Mais après, il peut y avoir des grosses surprises.
Ouais.
Il peut y avoir des grosses surprises, donc c'est pas sur tous, mais il y a des gens, tu vois qu'ils incarnent leur dosha. C'est genre, tu sais que c'est un pitta, quoi. Genre un athlète, tu sais en général qu'il va, il va avoir du pitta en dominant, quoi. Tu peux pas être ambitieux et être dans la compétition et être kappa, tu vois. Kappa, t'es plus
Oui.
dans l'amour, t'as envie de faire des câlins. Tu vois, t'es
Mais
dans
moi,
le
c'est ouf,
bisounours.
mais genre, ça explique tellement en fait ce truc où je sens que parfois, voilà, j'ai deux énergies ambivalentes qui sont en moi parce que je suis Pitta, j'ai une dominante Pitta et je suis aussi Kappa, tu vois. Donc, j'ai ce truc, voilà, de feu et en même temps ce truc un peu, comme tu dis, la roudoudou bisounours, tu vois. Et parfois, ces deux choses-là, tu vois, sont en opposition frontale et ça peut faire mal à la tête.
Ouais, mais tu vois, les Pitta Kappa, c'est les plus aimés de toutes les. C'est ceux qui s'entendraient avec quasiment tout le monde, quoi. Enfin, avec
Ben
toutes
oui, ben ouais, parce qu'on a ces deux énergies-là, donc. Mais
les.
ouais, c'est hyper intéressant. Et t'as réagi à une de mes stories où je disais que la colère, c'est mon gros point de travail parce que, voilà, de mon point de vue, on vit dans un monde où il y a tellement d'injustices et tellement d'inégalités, de disharmonie, tu vois, que ça. Il y a une partie de moi qui est en colère, en fait, parce que je me dis, ça pourrait être tellement, mais tellement génial de vivre ici. Et du coup, ça peut me mettre en colère. Et tu m'avais envoyé un message où tu m'avais dit, en tant que Pita, en fait, la colère, c'est ton bois, tu m'as dit.
Ouais. Mais c'est ça, en fait, chaque dosha, en général, chaque dominante va en fait avoir son élément pour élever sa conscience. Et une personne à dominante Pitta ou avec beaucoup de Pitta va avoir besoin de d'alchimiser une émotion. Et je te parlais de l'alchimie positive, c'est-à-dire, en fait, de l'extérieur, tu reçois de la colère, et en fait, en toi, tu vas changer cette colère en amour pour les autres. Et en fait, c'est ça, les pitas, en fait, ils doivent utiliser ce qu'ils ont envie, ce qu'ils détestent à l'extérieur ou à l'intérieur d'eux, pour en faire quelque chose de bien.
Ouais, mais oui. Et je te remercie encore, tu vois, de m'avoir envoyé de l'amour avec ce message, parce que ça faisait du bien. Il y a autre chose que j'ai découvert en écoutant tes podcasts, c'est que les doshas, on les retrouve aussi dans les différentes phases de sa vie.
Ouais.
Et ça, c'est génial.
Ouais. Mais l'Ayurveda, c'est génial.
Mais je sais. Est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, comment on retrouve l'énergie des doshas
Ouais.
pendant toute sa vie?
Alors du coup, on retrouve l'énergie des doshas dans la vie et dans la journée.
Ah
Mais
oui.
pour la vie, du coup, la première phase de notre vie, c'est la phase kappa. Donc, c'est la phase où on apprend beaucoup de choses. Du coup, le kappa, en général, il retient beaucoup les choses. Il l'ancre beaucoup dans son corps. C'est pour ça qu'en fait, en général, les kappas, ils peuvent prendre du poids rapidement parce qu'en fait, ils vont tellement garder leurs émotions en eux et ne pas les relâcher qu'ils peuvent prendre du poids. Voilà. Du coup, c'est cette phase-là, kappa, où il ancre en fait toutes les croyances qu'on lui donne. Et il a
Oui.
besoin de ce kappa pour être ancré, pour aussi créer ses os, ses tissus. Voilà, donc c'est aussi le kappa en général, il est fort physiquement aussi, il est endurant. Voilà, c'est pour ça qu'un enfant, il tombe malade et 3 jours après, il pète la forme.
Oui.
Voilà, un kappa, c'est pareil, hein, il est très fort et il tombe pas souvent malade. Et voilà.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ensuite, il y a la phase pitta. Donc, c'est adulte à peu près à partir de l'adolescence, 16 ans, à partir du moment où les femmes, les filles ont leurs règles, quoi,
Oui.
jusqu'à la ménopause, à peu près 50 ans. Et donc, à cette période-là, ben, le pitta, le feu commence à augmenter en fonction, enfin, chez les gens différemment. Et en fait, c'est là où ils devraient commencer à brûler ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils n'ont pas aimé de leur enfance,
Ah.
ce qu'on leur a appris, mais également construire la nouvelle identité qu'ils veulent, construire des choses à l'extérieur pour le monde. Donc, ouais, utiliser ce feu pour créer, se créer soi-même ou créer des choses à l'extérieur de soi. Donc,
Passionnant.
ouais. Et ensuite, le problème avec la phase Pitta, ou en tout cas les personnes qui sont Pitta dans la phase Pitta, c'est qu'elles peuvent avoir tendance à oublier leur corps et à foncer droit vers leurs désirs. Et ça, on le voit beaucoup avec les burn-out. Genre,
D'accord.
ils oublient leur corps et le burn-out, c'est très Pitta. Hein. Et
OK.
inflammation, quoi, le feu.
Et
Et ensuite,
avant que tu nous parles de la dernière phase, il y a un truc que je vais t'enseigner. Je pense que tu ne l'as pas lu dans tes bouquins ayurvédiques. C'est que quand tu es pitta, en période pitta, et que tu manges un pain pitta, tu ouvres un portail cosmique, en fait, vers le futur directement.
sérieux?
Oui.
Moi, je suis pas pita, mince, je peux pas tenter.
Et mais tu sais que la première fois que j'ai entendu le nom pitta, à quoi j'ai pensé, c'est là que tu vas capter que voilà. Il y a le premier chien, je crois que le chien de Nabila s'appelle pitta.
Ah,
Donc t'imagines, ma
les meilleurs
référence,
rêves.
c'était ça, quoi.
Oh là là, les meilleurs rêves. Après Kris Jenner, c'est Nabila, quoi.
Ben oui, écoute, on a nos classiques,
Oh,
hein.
ouais.
Alors, et la troisième phase,
La
dosha de la vie.
troisième phase, c'est la phase Vata, du coup. C'est la phase où du coup, c'est plus aérien. Généralement, les gens, ils se connectent plus au subtil. Ils deviennent un peu plus fragiles aussi physiquement. Et à la transmission également. Vata, transmettre. C'est-à-dire que tout ce que tu as appris jusque-là, et surtout avec la phase Pitta, eh ben, tu peux l'enseigner aux futures générations.
Cool.
Ah
Donc
oui,
ça, c'est
avec
à partir de
l'Ayurveda.
50 ans, quoi.
Ouais,
C'est
avec l'Ayurveda, ce que j'aime beaucoup parce que c'est très concret aussi pour notre société actuelle, c'est qu'en fait l'Ayurveda fait en sorte qu'on s'améliore, nous, pour avoir une meilleure génération et encore plus évoluer au niveau de sa conscience. C'est pas
génial.
juste ne pas assembler le lait et les fruits. Non, non, c'est
Waouh.
pour créer de meilleures générations.
C'est génial parce que c'est totalement en opposition avec ce qu'on a, nous, ici, en Europe, quoi.
Ouais, c'est clair.
J'ai l'impression que c'est le truc ascendant. Que, ok, ouais. les nouvelles âmes qui s'incarnent sont beaucoup plus connectées spirituellement, mais autour, tu vois, l'environnement n'est pas fait pour les accueillir et pour les recevoir comme des sages, tu vois. C'est, non, comment on va vous saboter ? C'est chaud. Et justement, toi, Amel, tu proposes des bilans ayurvédiques, tu vois, de l'accompagnement. Comment ça se passe, en fait, quand on obtient un premier bilan ayurvédique, un premier rendez-vous, on a accès à quel type d'informations ?
Du coup, moi, les bilans ayurvédiques, je les donne que dans le cadre de mon programme TIGE, mais bon, je vais dire comment je fais généralement. Oui. Du coup, je donne, en fait, la constitution ayurvédique de la personne après un questionnaire. Oui. Et ensuite, bah, je lui donne les aliments dont elle a besoin. On parle également, en fait, de ses problèmes émotionnels, mentaux, ses difficultés du moment, pour voir, en fait, où elle en est et quelle pourrait être la cause de ses problèmes. Voilà. Et du coup, bah, maintenant que j'ai la ayurgyoti, je peux regarder sur le thème astral, comment aider la personne au niveau émotionnel, mental et au niveau de sa, pas de sa mission de vie, mais sa transition karmique, et comment elle peut mieux vivre dans sa vie, quoi.
Waouh ! Alors, l'ayurjyotish, c'est l'astrologie védique, c'est ça ?
L'ayurjyotish, en fait, c'est la partie santé de l'astrologie. Donc, en fait, il y a une manière d'aider une personne en fonction de la phase dans laquelle elle est. Si, par exemple, tu es dans une phase jupitérienne et que tu as tendance à beaucoup prendre de poids et que Jupiter est un maléfique pour toi et a un aspect sur ta santé, tu peux essayer de donner des pierres ou des mantras à Jupiter pour pacifier cette énergie et pour en fait mettre toutes les chances de ton côté pour perdre du poids si c'est ton objectif, quoi.
Ah, waouh !
Ouais.
C'est extraordinaire. Enfin, mais l'astrologie védique, ça apporte un complément à l'astrologie qu'on a, nous, ici. Ou comment ? Parce qu'en fait, je me demande toujours, est-ce que c'est des informations qui se nourrissent, qui se complètent, ou est-ce que parfois, c'est des approches qui peuvent être totalement différentes ?
Non, c'est totalement différent. L'astrologie occidentale qu'on connaît, c'est une astrologie solaire. C'est sur la personnalité, un peu sur l'ego, quoi, sur qui on est. Okay. L'astrologie védique, c'est une astrologie lunaire. C'est aller vers ce qui nous fait nous sentir bien et accepter en fait sa mission et qui on est. Mais c'est pas moi, je vais pas avoir un astrologue védique pour savoir qui je suis.
D'accord.
C'est plus pour savoir ce que je viens faire ici, dans quelle phase de ma vie je suis. Voilà, sur mon podcast, j'avais fait un épisode sur l'astrologie védique, si les personnes veulent creuser un
carrément.
Peu. Voilà, c'est deux approches totalement différentes. Et c'est toute une spiritualité, c'est aussi la réincarnation. Hein.
Oui,
il y a le transgénérationnel dans l'astrologie védique.
Parce que j'adore te suivre sur les réseaux, parce que je découvre plein de choses pour le coup qui sont nouvelles, parce que c'est vraiment c'est la dimension Ayurveda, c'est une approche du monde, du vivant, de la santé, de tout, de l'énergétique, qui est à la fois totalement, qui peut nous paraître totalement étranger, mais en même temps qui fait beaucoup sens. Et j'ai découvert aussi un site incroyable qui s'appelle AstroClick, tu vois, où on peut savoir où sur la planète, voilà, on est avec des énergies bénéfiques pour nous et où il y a des énergies qui peuvent nous freiner. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Alors, en gros, faut d'abord connaître son thème et connaître ses lignes positives et ses lignes négatives parce que ça ne va pas être les mêmes pour tous. Voilà, déjà, ça, il faut savoir. Ensuite, généralement, si on va vers une ligne de Jupiter, en général, c'est bien pour nous parce que Jupiter, c'est un grand bénéfique.
Mais quand tu dis qu'il faut connaître ces lignes, il faut connaître…
En fait, il faut connaître les planètes qui nous font du bien et les planètes qui nous font du mal.
Ah, il faut d'abord commencer par ça. Ok.
Ouais, c'est mieux parce que si, par exemple, Jupiter, non, on va dire Saturne, te fait du mal et genre te crée énormément de problèmes dans ton thème, si tu vas sur une ligne de Saturne, ben, tu vas recevoir encore plus de l'énergie de Saturne.
Alors, après, je vais juste expliquer aux gens qui nous écoutent. En fait, quand on va sur AstroClick, Astroclic Voyage, je crois, c'est ça.
Ouais.
En fait, on met sa date de naissance, l'heure de naissance et où on est né, et on obtient une grande map monde, donc une carte du globe en fait, avec plein de lignes, avec plein de couleurs et tout ça. Et quand on zoome et qu'on clique, on voit en fait, on a un descriptif énergétique de l'influence, voilà, de cette ligne. Et, ouais. Et en fait, là, ce que tu es en train de m'apprendre, Amel, c'est que moi, genre, j'ai passé quelques temps à lire tout ça, ces lignes et tout, mais je connais pas quelles sont mes planètes amies et ennemies. Donc, en fait, voilà, j'ai lu des trucs, mais je ne sais pas si c'est vraiment fiable pour moi, en fait, si c'est vraiment bon pour moi. Donc,
ouais, bah, déjà... je te l'avais dit que Mercure était ton ami.
Oui, Mercure est mon ami, c'est vrai. Après l'interview, je vais retourner sur Astroclic, voir où se positionne Mercure, tu vois. Mais après, tu sais, ce qui était dingue, c'est que quand je suis allée faire la retraite d'ayahuasca, il y a une ligne qui passait sur Iquitos, la ville où j'étais au Pérou.
Ok, et j'avais trouvé une...
Je me rappelle plus, faut que je retourne voir. Ah.
Mais c'était meant to be, hein. T'as l'énergie de ouf.
Totalement.
Ouais, c'est pas pareil pour moi, j'ai une ligne de soleil en plein sur Tataouin, la ville d'origine de mes parents. Et en fait, c'est ça qui me manque dans ma vie. Bon, je pourrais trouver le soleil ailleurs, mais c'est quand même ouf que le soleil, si je compacte ce que je traverse, disons que c'est un peu mon père qui me bloque. Et du coup, c'est comme si aller à Tataouin me rapprochait, me donnait toute cette force que mon père ne m'a pas donné.
T'allais obtenir une clé d'activation, tu vois,
ouais. Énergétique. Et c'est vrai, hein, à chaque fois que je vais à Tataouine, je me sens super bien.
Dingue.
Ouais.
Waouh, c'est hyper puissant. Et est-ce que tu penses que t'es obligée physiquement d'aller là-bas, ou est-ce qu'au travers d'une méditation, tu peux aller là-bas? Tu peux envoyer le corps énergétique là-bas?
Alors, t'as pas besoin en fait d'y aller si tu sais manager ton énergie avec des mantras et des pierres. T'as pas besoin de partir à l'autre bout du monde. Genre, si tu sais que Mercure ou Saturne te posent des problèmes, t'as pas besoin de t'éloigner de l'endroit où tu vis parce qu'il y a une ligne de Saturne ou de Mercure. Tu utilises un mantra ou une pierre qui va pacifier l'énergie de Mercure et de Saturne.
Mais tu sais que c'est fascinant, Amel, ce que tu partages là avec nous, c'est que en fait, tu valides encore quelque chose d'incroyable et simple, c'est que quand tu mets de la conscience sur les choses,
ouais,
tu peux les transmuter, tu vois.
Exactement.
Faut trouver le savoir. Remède. Ouais.
Et ben tu vois, genre en astrologie occidentale, il y a pas de remède. Astrologie védique, il y a des remèdes. C'est pas en mode c'est mort. C'est prédéterminé, tu vas souffrir. Non, non, il y a des moyens de changer et de mieux vivre ce que tu vis.
Ouais, d'ouvrir une nouvelle timeline, en fait, en mettant la conscience.
Exactement.
Très puissant, très, très puissant. Donc, ton podcast, c'est Tige, The Inner Journey, le voyage intérieur. J'adore parce que tu parles de spiritualité et d'activisme. Et il y a un topic, j'adore parce que tu me sensibilises à des sujets que je trouve passionnants, hyper intéressants, mais vers lesquels je n'irai pas spontanément, tu vois. Et il y a un sujet que tu as pas mal développé avec tes invités, c'était, moi j'appelle ça le whitewashing spirituel. Tu sais, c'est quand une personne occidentale va voyager en Inde ou peu importe où et va tomber d'amour pour le yoga ou pour n'importe quelle discipline, prendre le knowledge, la connaissance, le ramener en Europe ou aux États-Unis et totalement l'adapter un marché qui n'est pas son marché d'origine et du coup le dénaturer. Quelle vision, quelle approche tu as, toi, de ça?
Bah déjà, j'évite de juger les autres et je me regarde beaucoup moi-même parce que j'ai fait ça un peu, même si je ne me considère pas white, mais je suis quand même partie en Inde et j'enseigne toujours le yoga à des blancs, quoi.
D'accord.
Donc,
et est-ce que tu l'adaptes? Est-ce que t'es... Tu sais, ça me fait aussi penser quand certains Japonais ont ramené des sushis en Europe et que finalement, quand tu vas au Japon, tu te rends compte que dans les restos japonais, c'est pas du tout comme ça. La nourriture ressemble pas à celle qu'on a dans notre froid, quoi, dans les restos japonais. Et comment t'essayes, toi, de garder la substance, l'âme d'une discipline sans la dénaturer?
Bah déjà, j'explique ce que c'est le yoga. Je le connecte au Veda et je lui dis dans quel comment ça s'ancre en fait dans la vie à quoi ça sert. Et ensuite, il y a toujours, on pose les intentions et on remercie en fait la vie, Dieu, peu importe. Après, c'est un peu compliqué parce que les gens, ils sont pas forcément ouverts. Déjà, les intentions, c'est chaud. Om, genre réciter Om, chanter Om, c'est aussi chaud. Donc, c'est vrai que je dois m'adapter en fait aux personnes qui viennent en cours.
Mmh.
Ouais, mais ouais, c'est assez compliqué de faire ça, et j'avoue que je ne sais pas. En fait, je pense que je suis pas la personne qui saura dire comment gérer ça.
Non, c'est juste, je voulais dire que en fait, ça part toujours d'une très belle intention, tu vois.
Ouais.
Quand ton âme est connectée à une discipline, tu vois, étrangère, et que ça vibre en toi, et que, tu vois, ça fait tourner une énergie, voilà, lumineuse en toi, et que tu as envie de partager avec d'autres personnes, parce que tu dis, si ça a eu cet effet sur toi, ça peut aussi faire du bien à d'autres personnes, c'est clair.
Ouais.
Mais oui, parfois, je me dis que peut-être, voilà, peut-être que la connaissance, en fait, l'entièreté de l'égrégore de l'enseignement n'est pas respecté, et peut-être que ça le dénature, voilà, qu'il est moins puissant comme ça.
Après, je suis quand même allée en Inde, et je vais dire, j'ai donné mon argent aux Indiens pour qu'ils m'enseignent, quoi. Mais c'est vrai que ouais, c'est un sujet archi compliqué sur lequel j'ai pas toutes les réponses, et j'avoue, et c'est vrai que je me pose beaucoup de questions par rapport à moi, ce que je fais, comment je le transmets, même avec l'Ayurveda. Mes ancêtres, ils n'étaient pas dans l'Ayurveda.
Oui.
C'est pareil. Je me pose énormément de questions et j'essaie de respecter. Voilà, je pense que c'est quelque chose sur lequel je vais m'améliorer. Et je n'ai pas les réponses.
J'aime bien cette humilité, tu vois. Ça me fait penser à un désaccord Toltec qui est « fais toujours du mieux que tu peux », tu vois.
Ouais, voilà.
Je me dis qu'intentionnellement, quand tu fais les choses en étant connecté voilà, à la lumière, avec l'amour du partage, du bien-être, tu vois, de reconnecter les gens à leur essence et tout ça, je me dis que voilà, c'est toujours juste.
Ouais, mais tu ne peux pas arriver en France. C'est pas encore dans les consciences. Enfin, le yoga vient et tout, mais tu peux pas aller dans un cours de yoga et parler de vie antérieure. Genre, c'est pas du tout dans la conscience collective.
Ouais, carrément.
Donc petit à petit.
Ouais. Non, ouais. C'est vrai. Bah oui, on suit cet éveil de près.
Ouais.
Et je m'étais intéressée à l'Ayurveda il y a quelques temps en rapport avec les soins au naturel et l'alimentation. Et il y a des choses que j'ai gardées, que j'ai toujours intégrées dans ma routine. Par exemple, le raplang.
Ouais.
C'est quelque chose, moi, que je trouve, tu vois, qui a du sens, qui était vraiment un truc nouveau. J'explique pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est une tige arrondie en cuivre la plupart du temps. Qu'on utilise le matin quand on se réveille, qu'on est encore à jeun, et on râpe sa langue, et du coup, on détoxifie voilà, tous les dépôts qui se sont faits la nuit sur la langue. Et en fait, j'ai compris très simplement que souvent, le premier truc que je fais le matin, c'est boire de l'eau, tu vois, parce que je suis déshydratée et tout, et que je me disais, mais waouh, en fait, je renvoyais dans mon système toute cette toxine qui finalement avait été filtrée par mon corps pendant la nuit. Et j'ai trouvé la raplang, vraiment, pour moi, ça a été un objet gold. C'est mon objet ayurvédique. Qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Alors, il faut savoir que si on a un dépôt sur la langue, c'est qu'on l'a aussi dans les intestins. Donc, en fait, le réingurgité ne fera pas spécialement de mal. C'est juste un indicateur que...
Il y a du mucus.
Ouais, le feu digestif n'est pas assez fort, quoi.
Voilà. Intéressant. Donc, c'est plus un signal à lire.
Ouais, exactement.
Ok.
C'est ça, mais ça, après, ça a quand même des bienfaits. Hein. Ça va réduire la mauvaise haleine et ça va permettre, en fait, aux papilles d'encore mieux saisir les goûts.
Bon, au moins, on pue moins de la gueule avec ça.
Ouais, c'est ça. Exactement.
Et au niveau de l'alimentation, est-ce que tu pourrais partager avec nous deux ou trois tips hyper intéressants? Je sais que moi, je m'étais mise à cuisiner mes légumes avec le ghee, avec le beurre clarifié. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Alors, faut savoir que c'est... Je ne peux pas donner des tips comme ça.
Ouais, parce qu'en fait, ça dépend des doshas, c'est ça?
Exactement. Je ne vais pas dire « mets du poivre alors que tu es pita dominant », tu vois.
Intéressant.
Je vais partir du principe... Déjà, en général, beaucoup de personnes, vu qu'elles ont des boulots assis toute la journée, elles ont en général des feux digestifs assez faibles. Même si elles sont pita dominant, même si elles ont beaucoup de feu dans leur constitution, leur feu digestif est affaibli par leur
lifestyle.
Ouais, voilà. En fait, c'est des habitudes simples, boire de l'eau chaude, en tout cas pour les vata et les kapha, boire de l'eau chaude tout au long de la journée, l'eau froide à proscrire pour tous les doshas, hein, et encore pire pour kapha et vata, manger en conscience. Parce que quand on mange en conscience, on mange ce dont on a besoin. Et pas plus, pas moins.
Quand tu dis boire de l'eau chaude, c'est juste de l'eau chaude ou on peut mettre un petit sachet de tisane ou un petit citron
Le citron, ça dépend pour qui. Le citron, c'est un goût acide, ça augmente pita. Si tu es déjà, toi, en excès de pita, non. Ah ouais. Mais genre, si
t'es tu deviens pitagore, du coup, si tu es trop pita.
Ouais.
Ouais. Voilà.
Ouais, c'est les brûlures d'estomac, quoi.
Ouais. C'est fou, hein. C'est vraiment une... En fait, c'est de la biochimie intérieure. C'est très précis, quoi.
Ouais. Mais à fond, hein.
Mais ouais, j'adore. Parce qu'en fait, c'est là où tu vois que t'es sur un profilage, t'es sur une personnalisation de chaque aspect de ta vie. Là où on vit dans une société où on a envie de faire des pic-pic à toute une population mondiale, sans dosage, sans vérification au préalable, sans...
Ah oui,
t'as une vision personnalisée de l'humain.
Ah ouais, l'Ayurveda, c'est personnalisé. Hein. Tu peux avoir le même problème, quelqu'un peut avoir un ulcère, la cause va être différente pour les deux personnes et ça va être des traitements différents.
Évidemment.
Quelqu'un, ça va peut-être être une embrouille avec quelqu'un de sa famille, du coup, ça a augmenté la chaleur et quelqu'un d'autre... elle a trop forcé sur la harissa.
Et c'est fou. Je me suis replongée justement sur un de mes doshas dominants, donc pitta, et j'ai vu que c'était le pitta de l'inflammation. Tu vois que ça peut être cutané, ça peut être, tu vois, moi je me traîne, tu vois, de l'acné de l'adulte et tout, bah oui, ça fait sens. Et que justement, tout ce qui est viande, l'ayahuasca m'a dit d'arrêter la viande, mais là, reconfirmation, tu vois, pita, pas de viande, alcool, les épices à éviter, tout ce qui est fermenté, je crois aussi. En fait, les graines, j'ai découvert que les graines, tout ce qui est noix et tout, ça fermente dans le ventre.
Juste pour dire, généralement, un profil avec beaucoup de pita ou en tout cas pita dominant, l'arrêt de la viande n'est pas recommandé. Après, évidemment, il y a des questions éthiques, mais il y a tout un programme pour arrêter la viande petit à petit pour ne pas se déséquilibrer. Donc, c'est possible, mais il y a tout un processus à suivre pour en fait ne pas tomber en anémie. Parce qu'une personne pita, elle a besoin de quelque chose de lourd à brûler, quoi.
Il faut
du bois, c'est ça.
Du bois. Et oui, c'est genre, tu commences avec une semaine avec 5 kefta par repas. Ensuite, la semaine après, c'est que 4, 3, 2, une demi.
Ah oui, il y a un truc
aussi. C'est
comme
les gens qui arrêtent la clope.
Par rapport à ta question, quel type je donnerais? Manger que quand on a faim.
Ah oui, oui.
Ça aussi, on a tendance à ne pas le faire.
Tu as raison.
Moi, j'ai appris. Hein. Je me suis prise par la main moi-même et je me suis dit, tu manges quand t'as faim, quand t'as des sens. J'ai dû me demander à quoi ressemblait la sensation de faim, qu'est-ce que ça faisait.
Ouais. Mais ce que j'aime beaucoup aussi dans tes partages, c'est quand tu voyages pas mal, donc tu découvres de la nouvelle nourriture et tout. Et j'aime bien parce que tu raccroches toujours ça à l'Ayurveda, tu vois. Ouais. Tu dis, ça, c'est cette partie de moi qui va être nourrie, là, c'est celle-ci. Ouais. Et du coup, mettre de la conscience dans cet acte, voilà. Manger, bien manger, manger en conscience, ça change énormément de choses, en fait.
Ouais, et puis tu te rends compte qu'en fait, dans chaque partie du monde, ils ont leur propre nourriture qui est bonne pour leur constitution à eux.
Bien sûr.
Et leur climat, ça veut dire que quand tu as un pita en France, parce qu'il y a beaucoup de pita en France qui va en Inde, alors qu'en Inde, c'est beaucoup de vata et de kapha, évidemment que le pita, il finit avec la diarrhée, tu vois. Genre, ils mangent archi épicé en Inde, mais c'est parce qu'ils ont beaucoup de kapha.
Oui, donc, c'est ils ont... comme au Mexique.
Ouais, ils ont besoin de ça. Et tu vois, genre, si on peut lier ça à la société, on a tendance dans le monde hein, à vouloir copier ce que en Occident ils font, comment ils mangent.
Mais oui.
Bon. Ah, bah c'est super fancy de manger une plaquette de, enfin une tablette de comment ça s'appelle, de fromage. Allez hop! Alors que toi t'es kappa, que ça va augmenter ton kappa de ouf et que le lendemain tu vas avoir le coryza.
Rétention d'eau.
Ouais, voilà, des problèmes de
Mais
kappa, quoi.
Mais c'est très juste, c'est très très juste.
Ah oui, et puis désolé, juste
Je t'en
manger
prie,
aussi.
c'est ton épisode, Amel, c'est ton
Non, parce que
épisode.
c'est important, parce
Vas-y.
que manger local, tu vois,
Ouais.
genre ça n'a aucun sens de d'importer du quinoa de je ne sais pas où. Ou, tu vois, ça, c'est des aliments qui sont pas spécialement faits pour que nous, avec notre constitution et avec notre climat, on les mange et surtout les manger toute l'année, quoi. Genre la tomate, c'est pas bien vu en Ayurveda, hein.
Mais totalement. Et c'est quand tu parles de manger local, il y a aussi se soigner local. J'ai découvert que voilà, les plantes médicinales qui poussent là où on est né et là où on vit sont
Ouais.
vraiment aussi liées aux soins dont on a besoin.
Exactement.
Ouais. Et que quand j'étais dans la forêt amazonienne, je faisais aussi une diète avec des plantes médicinales. Et ils nous expliquaient que sur nous, occidentaux, elles ont un gros, gros, gros pouvoir sur nous parce qu'on n'est absolument pas habitué à les intégrer. Et donc, du coup, elles agissent très fortement sur nous. Pour eux, bah,
Ah.
moins, parce qu'ils sont nés là-bas et qu'ils sont connectés finalement à la conscience de cette plante-là, même s'ils ne la prennent pas, ils ne la boivent
Ouais, c'est
pas.
ça.
Donc, c'est
Comme
très
si tu buvais de
intéressant.
l'alcool pour la première fois ou si tu étais habitué, quoi.
Ouais, et donc ça se trouve, voilà, si tu vis dans le sud de la France,
Ouais.
romarin, thym, laurier vont être parfaites pour te soigner, en fait.
Ouais. Mais il me semble avoir lu qu'il y avait plus ou moins des équivalences entre les plantes de l'Inde et les plantes
Ah,
en France ou
en
dans d'autres pays.
Méditerranée? Ah ouais,
Enfin,
c'est pas.
c'est pas des équivalences exactes, mais chaque partie du monde a ce dont il a besoin pour se soigner.
J'avais vu que 40% des molécules utilisées par Big Pharma, par l'industrie pharmaceutique aujourd'hui, vient directement d'Amazonie. 40% des molécules.
Wow.
Donc, tu vois,
Ouais,
c'est
ouais.
vraiment c'est une pharmacie naturelle à ciel ouvert, en fait.
Ouais. Ils
Et
récupèrent pour nous les vendre.
oui, bah oui, faire la molécule synthétique alors que la molécule naturelle existe toujours.
Ouais.
Et oui, on en parlait au début du podcast. On va boucler cette boucle de cet épisode parfaitement. On parlait de l'influence bénéfique qu'ont les voyages sur ton évolution spirituelle, sur ton éveil de conscience. Comment t'arrives, enfin, je sais que tu te challenges beaucoup quand tu es en voyage, comment t'arrives à désintégrer tes limites mentales et psychologiques quand tu es à l'étranger, Amel?
Bah déjà, moi, j'ai un attrait pour tout ce qui est physique, challenge physique.
Ouais, les randonnées, les treks,
Ouais.
ouais.
Bah, j'aime trop parce que ça me fait vivre plein d'émotions. J'ai l'impression d'avoir vécu. Et tu vois, je me dis, mais c'est ça, vivre, en fait. C'est pas tout le temps être heureux,
Challenger.
ouais, c'est genre pleurer, rire, être frustré. Donc,
Ouais.
en fait, c'est tout ça, être challengé pour moi.
Je vois complètement, et en plus, tu as partagé avec nous justement. Cette randonnée de plusieurs jours, plusieurs nuits, où tu campais, où tu avais ta toile de tente, on suivait toutes tes aventures. Genre, le premier soir, tu n'arrivais pas à monter ta tente et tout. Et on était avec toi, tu vois, et tu avais cette honnêteté de partager ta vulnérabilité, tu vois, avec nous, en disant là, c'est dur, là, c'est pas facile, là, je me questionne,
Ouais.
là. Et en même temps, on te voyait sauter et vivre et courir dans des décors, des paysages incroyables. Et je vois en fait ce que tu partages avec nous sur le côté intensité, tu vois, de chaque instant.
Ouais.
Est-ce que t'as pas peur parfois que ça soit comme une drogue? quelque chose d'insatiable?
Honnêtement, je ne le vois pas comme ça. Je pense que être connecté à la nature, ce sera toujours là. Me lancer des défis physiques, ce sera toujours là. Mais je n'ai pas une relation malsaine avec. Si, tu vois, genre, j'avais été pita dominant, par exemple, peut-être que genre, j'aurais été obsédée, obsessionnelle. Tu vois, un pita, ça peut être obsessionnel.
C'est
C'est
pour
pas
ça
dans
que je
mon
te pose, c'est pour
caractère.
ça que je
Moi,
te
je suis
pose cette
d'accord.
question. Tu vois, c'est la pita en moi qui te
Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, t'as projeté.
J'ai projeté, j'ai projeté.
Ouais, non, moi je suis bata, tu vois, genre, je voyage avec mon hula hoop, donc.
Mais quand je t'ai vu, en fait, quand je t'ai vu arriver en Turquie et que j'ai vu que t'as sorti ton hula hoop, je me suis dit, attends, elle est sortie en acheter un dans un marché ou...
Mais non, Joy me suit partout désormais.
J'adore.
Ouais, donc je suis pas obsédée, mais j'aime bien.
Ouais,
Voilà. C'est dans mon
c'est...
caractère.
Mais oui, mais t'es une super source d'inspiration justement sur
Merci.
ce côté. Je pense que tu fais partie voilà, des personnes autour de moi qui m'ont donné, tu sais, cette impulsion du « Allez, vas-y, toi aussi, vas-y, va voyager toute seule, va vivre tes rêves et tout. » Et voilà, donc merci de m'avoir envoyé cette image valorisante en fait de cette
Le
aventure
voyage,
personnelle, ouais, du voyage.
c'est un booster dans ta vie, hein. Moi, je sais pas où j'en serais si j'avais pas voyagé, hein. C'est surtout si t'as pas un environnement qui te booste, ne serait-ce que la société où j'ai grandi ou ma famille, je serais pas qui je suis aujourd'hui. Et je me suis nourrie de plein de qualités, de personnes que j'ai rencontrées autour de moi, tu vois. Genre d'autres familles chez qui j'ai vécu, d'autres personnes que j'ai rencontrées m'ont appris des choses que ma propre famille ou que la société ne m'ont pas appris. Et qui me
Mais
permettent d'être une meilleure personne, j'espère, qu'avant.
oui, non, mais c'est magnifique, c'est super beau. Et c'est la question que je pose à tout, toutes mes invitées, tous mes invités dans le podcast. Amel, quelles sont pour toi les sources issues de la pop culture, donc films, séries, livres, comédies musicales qui t'ont inspiré dans ton éveil de conscience?
Ah bah moi j'adore Kanye West. Pour moi c'est un de mes gourous avec Joe Rogan qui a le podcast The Joe Rogan Experience.
Ouais.
Et ouais, et Idriss Aberkane aussi.
Ah oh, oui, j'adore.
Ouais. Et voilà. Mais ouais, Kanye West, il dit des trucs, on le prend pour un fou, mais franchement, il dit des trucs vrais, hein.
Mais
Et des
bien
trucs que les
sûr.
gens ne sont pas prêts à accepter.
J'ai vu que tu as même fait un épisode hommage avec des citations de Kanye West.
Ouais.
Donc si vous voulez aller écouter ça, c'est Tige, T-I-J, The
Ouais.
Inner Journey. Et par rapport à la folie, l'ayahuasca m'a enseigné, m'a dit que pour se connecter à son génie, il faut avoir l'audace de se connecter à sa folie et qu'on débloque sa partie de génie uniquement quand on a le courage et l'audace d'ouvrir pleinement la porte à sa folie. Donc tu vois que Kanye West est carrément là-dedans. Donc voilà,
Ouais.
j'adore cette idée-là. On n'a qu'à tous nous connecter à notre folie. En fait, notre folie, c'est quoi? C'est ce qui fait qu'on est unique et qu'on n'a
Ouais.
pas peur du jugement, qu'on n'a pas peur voilà, de la critique, qu'on est soi à 100%. C'est ce que j'appelle la vraie déclaration d'amour pour soi-même, tu vois. Et je pense qu'en 2022, ça peut être une super résolution, tu vois, de se connecter à la partie lumineuse de notre folie.
Ouais. Et encore, tu vois, genre, tu vois, ça, je l'ai appris en Ayurvédique. Tout le monde n'est pas. Enfin, tu vois, genre, il y a un profil, un ascendant qui doit vraiment embrasser sa folie. Genre, c'est les gens qui vont faire les clowns, mais vraiment qui vont faire des trucs de ouf, quoi. Et qui doivent vraiment sortir. Donc, en fait, juste pour dire aux gens, tranquille, vous ne serez pas les plus fous. Donc, tu verras ce
Y a
que les gens
toujours plus
prennent.
fou.
Voilà.
C'est vrai, c'est cool. Mais ouais, genre, faut lâcher le frein à main, là. Faut vraiment vivre, quoi.
Ouais.
Vivre dans sa joie, vivre ses expériences, ses rêves. Genre,
Ouais.
réaliser ses rêves et ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur, en fait. Juste se dire, allez, go, j'y vais. Ça peut être un tout petit pas, en fait.
À l'école et le gouvernement nous a appris que c'était eux qui donnaient.
Et
Et du
oui.
coup, bah nous, on n'a pas inconsciemment, on n'a pas intégré que en fait, c'est nous qui devons aller chercher et
Ouais.
construire. Et du coup, c'est très dur. aujourd'hui de se dire, bah, t'étais censé me donner, pourquoi tu m'as pas donné?
Ouais. Mais c'est hyper intéressant et ça me fait penser à. On pourrait pas en parler encore pendant longtemps, mais
Ouais, c'est clair.
tu sais, j'ai été dans cette position pas mal de temps et maintenant j'en suis sortie, tu sais, quand tu dis ouais, mes parents, ma mère m'a pas donné assez d'amour et moi j'étais une petite chose fragile et frêle qui avait besoin de tellement d'amour et du coup, voilà, j'en suis vie encore les séquelles aujourd'hui. Et finalement, j'ai écouté, il y a une femme que j'ai découverte sur YouTube qui s'appelle Arwen de Réau, qui est vraiment une punchlineuse. C'est une femme, mais fabuleuse. Je pense que je vais bientôt l'interviewer. Parce que c'est toi qui aimes les badass aussi, tu vois. Elle est spirituelle et badass.
OK.
Et elle expliquait, on n'est pas là pour être aimé, en fait.
Ouais.
Arrêtez de croire ça. On
Ouais.
n'est pas là pour recevoir de l'amour, on est là pour en donner. Et tu vois, quand elle a sorti cette phrase, elle m'a calmée direct, quoi.
Ouais, c'est clair, mais c'est pas facile à accepter, hein.
Ah bah bien sûr que c'est pas facile. Genre ton ego, il est vraiment pas content parce qu'il avait une
Ouais.
super excuse pour être un peu défaillant. Et là, non.
Ouais.
Et donc j'adore. Mais oui, voilà, on est là pour vibrer haut, quoi, et pour aussi donner l'exemple, mais tu sais, dans la douceur et l'amour, juste dire, regardez, c'est possible, voilà, on peut le faire, on peut y arriver, on peut vraiment kiffer, même si autour de nous, on a l'impression qu'on a éteint les lumières, tu vois.
Ouais, et puis ça veut pas dire qu'on sera toujours tout seul. Genre,
Aussi.
peut-être que pendant un moment, on va être tout seul, mais au bout d'un moment, on va trouver notre famille d'âme.
Oui, c'est
Donc,
vrai,
et les personnes
carrément.
qui vont nous aider.
Oui, totalement, bien sûr. Bah écoute, je te remercie pour
Bah,
cet
merci à toi.
épisode. Ça faisait longtemps que je voulais l'enregistrer avec toi, donc je suis ravie qu'on ait pu trouver le temps de le faire. Et voilà, je vous mettrai toutes les infos pour aller écouter le podcast d'Amel, aller la suivre sur Instagram. C'est quoi ton at sur Instagram? Je sais que tu en as deux, Amel.
Tige by Amel, c'est sur celui-là que je partage le
Tige.
plus.
TIJ comme The Inner Journey et vous allez pouvoir la voir encore en voyage pendant pas mal de temps et qui sait peut-être qu'on va se retrouver quelque part hein, Amel.
Mais oui,
Ce serait
l'Iran.
génial. Allez en Iran, let's go. C'est trop drôle parce qu'on est parti à peu près en même temps et qu'on a pris
Ouais.
tu vois, des directions vraiment voilà, nos âmes étaient appelées par des contrées très
Ouais.
différentes et je sais qu'à un moment donné on va se retrouver, on va
Ah ben
trouver
j'espère bien.
des endroits où on a envie d'être ensemble. Bah
Ouais.
écoute, merci mille fois, Amel. Merci pour cet épisode incroyable. Et
Ouais.
à très vite.
Merci.
Bye.
Bye.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode 37. J'espère qu'il vous a plu autant qu'il m'a plu. Amel est vraiment fantastique. J'ai vraiment de la chance d'avoir un homonyme qui m'inspire autant. Si vous avez envie de faire un bilan ayurvédique avec Amel ou de suivre ses formations ou de rentrer en contact avec elle, vous allez retrouver son at, toutes ses informations, le lien vers son site aussi, dans la barre d'informations. Vous pouvez aussi suivre les aventures d'Amel en voyage au travers de son podcast. Tige, TIJ, The Inner Journey. N'hésitez pas à faire appel à elle, elle est vraiment extraordinaire. J'ai d'ailleurs moi-même fait mon bilan ayurvédique avec elle et j'ai découvert des choses fantastiques. Vraiment, ça m'a énormément surprise et parce que c'est très clair, c'est très juste et c'est magnifique de voir à quel point nos planètes de naissance influencent toute notre vie. Donc, je te remercie pour cette découverte, Amel, et je te remercie d'agrémenter ma vie d'Ayurveda à chaque fois dès que tu le peux. C'est vraiment une grande source d'enrichissement. J'espère que tout se passe bien dans vos vies et nous, on se retrouve dans 2 semaines sur Spiritualista. À très vite.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.